Welcome on Altitox Academy's podcast. Learning more about today's science with Jeanne Laperouse and our guests. Have a good listening.
Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Altitox Academy podcast. Aujourd'hui, je suis avec Philippe Hubert, directeur de Francopa.
Bonjour
Philippe. Merci d'être avec nous. Donc, le centre Francopa est une plateforme rattachée à Norecopa qui promeut les méthodes alternatives aux tests sur les animaux et donc le remplacement, le raffinement et la réduction du nombre d'animaux dans les laboratoires. Le centre 3R français a été créé en 2007. C'est un groupement d'intérêt scientifique. Philippe, pouvez-vous nous expliquer un petit peu l'historique, comment il a été créé et quels sont les membres du Francopa?
Bonjour. Donc, Francopa a été créé dans la mouvance de ECOPA. Hein. Donc, ECOPA, c'est la tête de pont européenne qui a été créée en 2000, je crois, ou 2001, au moment où se construisait la nouvelle réglementation sur l'utilisation des animaux à des fins expérimentales et à des fins de recherche, d'ailleurs. Et on a décidé au bout d'un certain temps que ce serait intéressant d'avoir l'équivalent en France. Après avoir tâtonné avec… C'était une initiative dans laquelle était impliqué le ministère de la Recherche. Et il s'agissait de trouver aussi quelle était la bonne structure. Est-ce que ça pouvait être une fondation? Est-ce que ça pouvait être une association, etc. Et finalement, ça a été construit sous la forme d'un groupement d'intérêt scientifique. Donc, un groupement d'intérêt scientifique, qui veut dire… En fait, qu'il s'agit d'un contrat de partenariat entre les membres du groupement d'intérêt scientifique. Et ça a joué un grand rôle dans son histoire. Ce n'est pas une personne morale. C'est-à-dire que ça n'a pas la capacité d'embaucher, de payer, etc. Donc, il faut chaque fois avoir des agréments entre les membres. Bon, ça paraît assez technique comme description, mais ça joue un peu sur la souplesse du fonctionnement. Donc, ça a été lancé, donc ça a démarré en 2006, ça a été signé en 2007. Ça a été lancé avec les promoteurs principaux étaient le ministère de la Recherche, qui à une époque avait donc voulu faire une fondation et ça n'avait pas fonctionné. C'était l'INERIS, qui est resté, qui est toujours un peu le pilier support de Francopa. Et c'était l'agence du médicament, à l'époque l'AFSAPS, qui était à l'époque, donc INERIS et AFSAP se sont retrouvés à être les deux piliers de Francopa, et rejoint par, j'aurais pas dû dire deux piliers d'ailleurs, puisque dans le vocabulaire de ECOPA, les piliers représentent en fait les différentes parties prenantes. Donc on rejoint justement pour avoir cette. Les quatre piliers de ECOPA, juste pour avoir des représentants de l'industrie, des représentants de la recherche, des représentants des autorités et des représentants de parties prenantes type ONG. Donc, ça a été rejoint par une quinzaine d'institutions, le CNRS, l'INSERM, ce qui s'appelait à l'époque la Ligue française des droits des animaux, l'OPAL, et puis l'INRAE, le CEA. Et oui, j'oubliais ici, voilà ce que j'oubliais, c'est côté industrie. Donc, côté industrie, la Fédération de la beauté et l'Union des industries chimiques, qui depuis s'appelle France Chimie, et aussi le LEM, donc les industriels de la pharmacie. Vous voyez voyez donc les quatre aspects, donc les industriels, les ONG, les autorités et les chercheurs.
Et quelles sont les missions et les activités de Francopa?
Donc les missions et les activités de Francopa sont assez simples. Ça consiste à développer l'utilisation de nouvelles méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Ça consiste aussi à développer et à appuyer quand même les deux autres R, c'est-à-dire aussi la réduction et la, la réduction et le raffinement. Donc, le faire comment? Essentiellement par de la circulation de l'information, en mettant les gens en contact, en les faisant se parler. Donc, c'est pour ça justement qu'il y a ces quatre piliers. Et alors, on a monté un site internet avec une série d'informations. À une époque, il y a eu une série de cours dessus. Et il y a eu aussi une newsletter. Et puis, tous les ans, il y a soit un colloque qui se fait à ce moment-là avec ECOPA et à grande échelle, soit un séminaire dans lequel on regroupe des chercheurs et des opérateurs français sur tel ou tel thème.
Et comment sont utilisés les animaux dans la recherche en France?
Comment
Dans quel domaine?
Dans quel domaine dans les deux, alors, d'abord, parler d'animaux utilisés dans la recherche, c'est déjà limité à une certaine partie du problème, en fait, hein, puisque donc, l'utilisation des animaux ne se fait pas que pour la recherche. Et c'est là qu'il y a un paradoxe qui touche Francopa, mais qui touche ECOPA et qui touche la réflexion sur l'expérimentation animale, c'est qu'il y a une partie importante, mais très minoritaire, qui est utilisée dans ce qu'on pourrait appeler la sécurité sanitaire. C'est-à-dire, si j'ai développé un médicament, à la fin, je fais des contrôles. Ou si je mets des produits sur le marché, je les contrôle. Ou dans le cadre des vaccins, etc., je fais aussi des contrôles. Et donc, ça, c'est une part dont on parle beaucoup. C'est une part sur laquelle le remplacement a été assez important, mais qui représente que 20-25% à peine. Donc, c'est à la fois le symbole, le moteur, parce que je pense que ça a joué un rôle moteur extrêmement important, et une part minoritaire de l'utilisation des animaux. Je prends comme exemple l'interdiction de l'expérimentation animale pour les cosmétiques. Ça n'a pas porté sur énormément d'animaux. En même temps, ça a eu une influence sur l'innovation, sur la création de nouvelles méthodes, qui a été énorme, en fait. Et puis, on se retrouve aujourd'hui à avoir des systèmes de peau artificielle, etc., qui sont issus de ça. Donc, je réponds à votre question presque à côté, mais donc en disant que la part qui n'est pas utilisée dans la recherche est minoritaire, tout en ayant un rôle de dynamique et d'entraînement de la dynamique sur la recherche elle-même. En fait. Et alors, donc il reste à peu près 60-70% des animaux qui sont utilisés pour la recherche. Et là, je ne saurais pas faire de catégorie précise. Donc, il y a vraiment tout type de recherche. Ça peut être de l'écologie, comment vivent et réagissent telles ou telles espèces. Ça peut être de l'étude de la physiologie. Ça peut être de l'étude des pathologies, ça peut être de l'étude des façons de soigner les pathologies. Donc, il y a toute la gamme de l'investigation du vivant.
Et en termes de technologies alternatives aux méthodes sur les animaux, où en est-on aujourd'hui?
Alors, dans les technologies alternatives, là, il se passe énormément de choses, et peut-être un des défis de Francopa et un des défis de ceux qui doivent travailler sur ces sujets-là, c'est de les faire connaître. Donc, il y a plusieurs univers. Il y a un univers qui s'est beaucoup développé, c'est celui des organoïdes. Donc, c'est-à-dire celui des organoïdes avec des paradoxes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment pas mal de systèmes dans lesquels il y a des organoïdes. Notamment sur des éléments du système digestif, par exemple, ou sur des éléments du système respiratoire qui servent beaucoup à comprendre, par exemple, comment fonctionne la maladie de Crohn ou tel ou tel type de façon de lutter contre la maladie de Crohn, ou qui servent sur les maladies respiratoires. Ça, c'est pour l'investigation. Et par rapport à ce que je vous disais précédemment, les organoïdes sont par contre très peu utilisés pour les tests de sécurité sanitaire. Donc, parce qu'ils n'ont pas une reproductibilité. La fonctionnalité est bien reproduite, mais du résultat quantitatif qu'on pourrait utiliser dans des essais réglementaires, ce n'est pas encore très reproductible. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a un autre aspect qui est la microfluidique. Donc, on va mettre plusieurs systèmes cellulaires en relation les uns avec les autres pour reproduire d'une certaine façon ce qui se passerait dans un organe. Alors, c'est beaucoup moins proche de la réalité de l'organe que les organoïdes, mais en même temps, c'est beaucoup mieux observable, beaucoup plus quantifiable, etc. Donc, ça, c'est un autre aspect. Un troisième aspect, ce sont les systèmes cellulaires plus compliqués. Donc, il y a des systèmes, l'organoïde étant le système le plus évolué, mais il y a des systèmes multicellulaires pour regarder comment est-ce qu'on peut reconstituer des barrières de peau ou des choses comme ça, qui sont utilisées à la fois dans le réglementaire et dans la recherche, quand on veut étudier un mécanisme. Donc, ça, je crois que c'est ce qui concerne donc les alternatives à base physiologique, si on peut appeler ça comme ça. Et puis, il y a évidemment tout le développement du numérique avec le projet de foie artificielle, le cœur artificiel, etc., dans lequel on va reconstituer numériquement ce qui peut se passer à l'intérieur d'un organe. Dans le numérique aussi, il y a toute la simulation de la transformation des intrants à travers au moment où ça passe d'un organe à l'autre, où des métabolites se forment, pour savoir finalement si vous mangez ou respirez quelque chose, qu'est-ce qui arrive dans le foie, qu'est-ce qui arrive dans les poumons, etc. Donc, un double intérêt, c'est de comprendre ce qui se passe, de savoir si c'est la molécule initiale ou des métabolites, donc de dégradation de la molécule initiale, qui vont finalement atteindre les cibles. Ça permet aussi d'établir le pont avec la recherche animale, puisque ça permet de savoir si de mieux utiliser une expérimentation animale pour l'expérimenter à l'homme, puisque si on a modélisé chez l'animal et modélisé chez l'homme, on sait si on est en train de faire la même chose ou si on est complètement à côté de la plaque. Donc ça c'est assez important, en fait. Rétrospectivement aussi, de faire pas mal d'économies en termes d'animaux utilisés. Soit de s'en passer complètement, soit de faire des économies en termes d'animaux utilisés. Le troisième axe de tout ce qui est numérique, c'est ce qu'on appelle les QSAR, c'est un très joli nom, c'est les Quantitative Structure Activity Relationships. C'est donc la façon, en partant de descriptifs chimiques de la molécule, de prédire quel va pouvoir être son effet. Intuitivement, ça se comprend assez bien parce qu'on sait par exemple que quand il y a des métaux lourds, ils vont tous agir de façon un peu similaire. Donc là, c'est évidemment beaucoup plus sophistiqué, mais c'est un peu la même idée, c'est d'exploiter les analogies. Donc, un des gros enjeux, c'est évidemment de coupler ces modèles numériques aussi avec les modèles expérimentaux, que ce soit au niveau cellulaire, pour dire, maintenant que j'ai modélisé et que je vois que c'est ce qui se passe au niveau, mettons, du foie, je peux travailler sur le foie et sur des cellules de foie, et je ne suis pas obligé d'exposer un organisme entier pour voir ce qui se passe. Ça, c'est vraiment un des avantages. Et puis éventuellement de se passer complètement d'expérimental, à condition d'être assez précautionneux quand même. Donc ça, c'est un peu les méthodes principales. On a vu donc le cellulaire et le numérique. Et la chose qui se passe en ce moment, c'est aussi qu'on dispose de plus en plus de biomarqueurs, on dispose de plus en plus de capacités de mesurer Bah, je parlais de métabolites tout à l'heure, mais ça peut être aussi l'expression des protéines qui sont l'expression de tel ou tel gène, etc. Donc, tous ces biomarqueurs, on en parle quelquefois pour dire que ça permet de raffiner l'expérimentation animale, donc de tirer plus d'informations, d'utiliser moins d'animaux. Mais il ne faut pas oublier aussi que ça permet aussi de regarder comment on passe de l'animal à l'homme, s'il y a les mêmes biomarqueurs. Et ça permet aussi de travailler directement sur l'homme. C'est-à-dire qu'en épidémiologie, on peut se permettre maintenant, au lieu de regarder l'effet global qui se passe sur les populations étudiées en épidémiologie, on peut regarder des biomarqueurs qui permettent de disposer de signaux précoces, ce qui permet d'avoir aussi une puissance statistique infiniment supérieure. Et donc les biomarqueurs sont aussi des éléments qui vont permettre de faire le pont entre les différents systèmes d'observation du vivant. La modélisation d'un côté, les biomarqueurs de l'autre, ça permet de désenclaver des disciplines qui étaient finalement complètement enclavées, complètement autonomes, quoi. Bon, les gens qui travaillaient sur les cellules, les gens qui travaillaient sur l'animal, les gens qui observaient l'homme, tous ces gens-là n'avaient pas forcément tellement de choses à se dire, faute de langage commun. Et donc maintenant, ils ont beaucoup plus de choses à se dire à cause du langage commun numérique ou à cause du langage commun des biomarqueurs.
Donc finalement, à vous entendre, on est au-delà de la simple substitution de méthode animale. C'est une avancée vers une technologie, une toxicologie de précision davantage que simplement le remplacement des animaux.
C'est toxicologie et physiologie, oui. Donc il faut. Je pense qu'il y a des nouveaux outils qui se développent et il faut les utiliser, quoi. Donc, la philosophie de Frankopa, d'une certaine façon, et celle de Ecopa, et celle des gens qui travaillent sur les méthodes alternatives, a pas mal évolué par rapport au concept tout simple de remplacement, qui est pas complètement. Le remplacement, c'est pas forcément complètement satisfaisant pour l'esprit. Ça veut dire, tiens, j'ai fait quelque chose en 1982, là, j'avais une méthode, je vais trouver quelque chose qui fait la même chose sans animaux en 2019. Finalement, il n'y a pas forcément tellement de progrès, en fait. Donc, bon, et là, en fait, c'est plutôt la création d'une dynamique, avec ce que les gens appellent maintenant les NAM, les New Approach Methods, dans lequel on développe des nouveaux outils qui vont effectivement permettre de diminuer ou de laisser sur le côté des expérimentations animales, en tout cas celles qui sont obsolètes, parce qu'il reste pas mal de types d'expérimentations obsolètes. Et puis d'entrer dans des systèmes plus intégrateurs et plus novateurs. Je pense que c'est une des ambitions, c'est un peu philosophique de le dire, mais c'est de sortir d'un débat dans lequel on opposerait la science et puis la conscience, ce qui, pour un bon rabelaisien, est toujours choquant, vers un débat dans lequel on essaye de dépasser les résistances au changement pour aller vers des approches innovantes et désenclavantes.
Et en termes de législation, on a au niveau européen, vous avez dit, interdit les tests sur les animaux pour les ingrédients exclusivement utilisés dans les cosmétiques. On a une réglementation REACH qui suggère d'utiliser les méthodes alternatives quand elles existent. On a une directive qui protège les animaux à recherche scientifique aussi et qui met les 3 R en avant. Mais qu'en est-il de la validation des méthodes alternatives? Comment ça se passe au niveau réglementaire pour valider ces NAM? Qui le fait? À quelle échelle ça s'opère?
Alors, quand on parle de validation, généralement, on est dans les systèmes réglementaires, c'est-à-dire qu'on parle des 20-25% au maximum dont je parlais tout à l'heure. C'est un tort, à mon avis, c'est un tort, mais enfin, quand on parle de validation, c'est ça. Donc, qui le fait? Donc, il y a l'OCDE, l'OCDE qui a un système pour valider avec une série de groupes de travail, de validation management groups, et puis de discussions ensuite pour valider telle ou telle nouvelle méthode, qu'elle soit animale ou pas d'ailleurs. Enfin, donc ça, c'est pas le sujet. Il y a l'ECVAM au niveau européen, donc qui est le centre de validation des méthodes alternatives. Et puis il n'y a pas grand-chose d'autre, en fait. Ce dont on se rend mal compte, c'est le coût extraordinaire de ce que peut représenter une validation, puisque ça consiste, quelqu'un a une bonne idée, quelqu'un a une idée d'un système expérimental très, très bien construit. Si on veut passer à la validation, il faut rentrer dans une foule de détails pour avoir des procédures décrites à la virgule près, de façon à ce que quand on donne la procédure au laboratoire d'à côté, il trouve le même résultat. Il faut tester justement, c'est ce qu'on appelle la transférabilité, qu'un autre laboratoire appliquant la procédure trouve la même chose. Il faut tester ensuite le domaine d'application, donc avec plusieurs laboratoires qui vont faire des essais circulaires. On donnera plusieurs molécules en aveugle pour voir ce qui se passe. Donc, pour construire une validation, ça peut paraître exagéré, mais en fait, si on veut avoir complètement confiance, il n'y a pas vraiment d'alternative. Il faut vraiment le faire sur beaucoup de substances, plusieurs fois, etc. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des programmes qui coûtent dans les 500 000 à 1 million d'euros, même pour des méthodes extrêmement simples. Et ça, personne n'est prêt à le payer. Personne n'est prêt à le payer, ça n'intéresse personne, parce que les chercheurs ne sont pas intéressés à refaire tourner leur méthode 50 fois, 200 fois, 300 fois, sans rien apprendre, juste pour voir si c'est pareil que le voisin. Un industriel qui développerait dans une logique lucrative une méthode ne s'y retrouve pas, puisque donc une méthode validée, normalement, il peut y avoir certains droits de propriété et certaines licences, mais elles sont extrêmement limitées par principe, parce que si on veut avoir un outil qui soit général, etc., ça ne peut pas être capturé par quelqu'un. Donc il doit y avoir ce que l'OCDE appelle une approche raisonnable, équitable et modérée des droits d'utilisation. Donc, il y a un blocage là-dessus, et bon, avec le fait qu'il n'y a pas de retour sur investissement pour des gens qui auraient une vision financière de la chose, et il n'y a pas d'avantage en termes de recherche pour des gens qui auraient une vision cognitive de la chose. L'ECVA m'a lancé un système avec une série de laboratoires qui s'appelle EU Netval, qui sont des laboratoires qui participent à ces essais circulaires. Le seul problème, c'est que ces laboratoires, il faut les payer. Soit ils font ça par générosité, soit dans certains pays, il y a certains pays qui les financent, soit ils se sont inscrits et puis ils font rien parce qu'ils n'ont pas de financement pour le faire. Il y a un gros enjeu là-dessus. Et je fais un aparté, puisque donc moi, je suis chargé d'une plateforme qui s'appelle PEPER, qui est sur les perturbateurs endocriniens, de façon à justement collecter de l'argent public et de l'argent privé pour pouvoir l'injecter dans ce système. Donc, je reviens à ça. Quand vous parliez de validation, je crois que la question, ce serait un grand saut. C'est un saut qui n'est pas près d'être fait, mais la notion de validation au sens « quelle confiance peut-on apporter dans le domaine de la recherche ?» Oui, ce serait utile aussi. Ce n'est pas forcément aussi complexe et aussi lourd que ce que j'évoque, mais je pense qu'avoir des méthodes que des différentes équipes de recherche puissent se partager en confiance, ce serait tout de même un progrès.
Vous parliez justement de ce problème d'accès à des financements pour encourager la recherche dans ce sens. Mais quels sont les moyens, qu'est-ce qui existe comme fonds en France ou en Europe ou à l'international pour financer la recherche dans le développement des méthodes?
Alors, pour financer la recherche dans le développement des méthodes, dans le développement, j'entends bien, il y a pas mal de programmes européens. Il y a tout le cluster à propos des perturbateurs endocriniens, il y a tout ce qui est regroupé dans le cluster Eurion, et dans ce cluster-là, et donc le développement de méthodes, et le mot validation est aussi prononcé, bien que ça n'aille pas dans jusque dans le détail que je vous indiquais. Donc ça existe au niveau européen. Il y a certains pays qui ont des systèmes qui financent, comme la Suède, par exemple, ou la Norvège, ou la Suisse. Et en France, pour l'instant, il n'y a pas de financement de New Approach Methods ou de choses de ce genre-là.
Est-ce qu'il y a aussi comme des barrières, on va dire, un peu plus psychologiques peut-être de la part des régulateurs pour
Alors, si on est
adopter
chez.
ces méthodes?
Si on est du. Oui, je pense qu'il y a. Chez les régulateurs et peut-être un peu chez les chercheurs, il y a un peu une résistance au changement. Voilà, il y a quelque chose qu'on connaît bien, avec des côtés positifs, hein, c'est-à-dire que sur certains animaux, par exemple, le génome est séquencé tout un tas de fois, etc. Donc, on a un très beau réverbère pour regarder ce réverbère, il éclaire très bien, donc, on n'a pas forcément envie d'aller dans l'ombre. Donc, il y a cet aspect-là. Dans le domaine, et ça s'oppose à l'innovation, dans le domaine réglementaire pur, c'est un peu plus compliqué et malheureusement la résistance est pas mal plus forte parce que si vous utilisez, vous êtes régulateur, vous utilisez une méthode qui est prouvée, qui a tous les cachets de preuves, qu'elle est validée, pas validée, etc. Vous utilisez le résultat de cette méthode-là, vous êtes entre guillemets, comme on dit en français, couvert. Vous ne prenez pas de risque. Si vous dites, écoutez, cette méthode-là, elle est quand même un petit peu démodée, elle est quand même un peu ringarde. Il y a des gens qui ont développé des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus efficaces, mais il n'y a pas le cachet de l'autorité, truc machin. C'est vous, en tant que régulateur, qui prenez le risque en cas d'erreur. Dans le premier cas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas de votre faute. Dans le deuxième cas, c'est de votre faute. Donc, on ne peut pas forcément jeter la pierre à des gens qui cherchent à se protéger et qui, s'ils devenaient innovants, se retrouveraient en première ligne et se retrouveraient finalement la cible d'attaque en cas d'attaque, y compris d'attaque juridique, dans le cas où quelque chose tournerait mal. Je crois que c'est important d'avoir ça en tête, en fait. C'est pas, il y a de la résistance au changement instinctif, mais il y a aussi un côté risque juridique pour les gens qui ont à prendre ces décisions-là, qui n'est pas négligeable, et qui est un risque individuel, en fait.
L'Europe vient de sortir une stratégie sur les produits chimiques et veut et vise un environnement sans produits toxiques. Est-ce que vous pensez que les 3R, justement, ont une place pardon, je vais reformuler. Quelle est la place des 3R dans le Green Deal aujourd'hui que l'Union européenne met en avant pour aller vers un environnement dépourvu de produits chimiques?
Nocif, non?
Nocif, pardon, nocif, parce que chimique, il y en aura toujours. Excusez-moi.
Je pense que dans les 3 R, il y a un côté très important, c'est le côté accélérateur. C'est-à-dire que si on se retrouve avec une centaine de milliers de produits chimiques, finalement, c'est ce dont on avait parlé pour Rich au départ, finalement, il y en a un peu moins, hein. Je sais plus, ça doit plutôt être dans les 60 000 ou 50 000, vous le savez peut-être mieux que moi que 100 000. Enfin bref, l'avantage des 3 R et spécialement des méthodes numériques et des méthodes qu'on appelle haut débit en termes in vitro, c'est de pouvoir aller beaucoup plus vite pour se méfier de telle ou telle substance. Ça. Donc, si on veut aller dans cette direction-là, ça permet d'y aller. Pas dire ça en termes d'années, mais peut-être qu'on peut gagner une décennie ou deux là-dessus.
En France, un nouveau groupe d'intérêt scientifique est en train de se créer depuis le début de l'année, je crois, 2021, dans le but de créer un autre centre 3R. Comment Francopa est impliqué et quelle collaboration vous envisagez peut-être avec ce nouveau centre?
Alors, donc, le nouveau centre, donc, c'est un centre qui est monté par les grands organismes de recherche scientifique, donc, qui étaient assez inquiets de voir la montée des contestations, en fait. Hein, donc, c'est un centre sur lequel on n'a pas encore beaucoup d'informations, si ce n'est qu'on a vu passer le. Si ce n'est qu'on a vu passer le la fiche de poste pour un directeur qui serait logé à la, qui serait installé à l'école vétérinaire de Maison Alfort. Donc, bon, de ce qu'on a compris, il y a quand même une logique qui est le prolongement des efforts qui avaient été entamés par tous ces établissements pour, sur les deux dernières ères, hein, sur le raffinement et la réduction, et puis sur le développement des bonnes pratiques en termes d'expérimentation animale. Parce qu'il y a quand même, c'est assez peu évoqué parce que le débat est tellement caricatural qu'on oublie d'en parler. Les gens qui pratiquent l'expérimentation animale ont quand même beaucoup évolué. Ils ont une rigueur et des choses qu'ils n'avaient pas, il y a 20 ans ou qu'ils n'avaient pas il y a 30 ans. Donc, ça, c'est donc de ce que j'ai pu comprendre en voyant la fiche de poste ou des choses comme ça, ça fait partie des objectifs. Il y a un autre objectif de ce centre 3R, c'est l'information. Donc, je suis en train d'inventer un peu, puisqu'on ne connaît pas vraiment. J'ai compris que c'était plutôt l'information du public sur l'expérimentation animale que ce sur quoi se focalise Francopa, c'est-à-dire l'information des chercheurs sur les méthodes disponibles. Et alors, il y a plusieurs questions. Donc, Francopa est tout prêt à se rapprocher de ce centre, mais il y a un certain nombre de conditions. On s'est réunis là-dessus récemment. Hein, donc, on doit avoir une réunion avec le ministère de la Recherche et ce centre. Et il n'y a aucune raison qu'il y ait deux centres à condition qu'ils fassent la même chose. S'ils ne font pas du tout la même chose, il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait qu'un seul. En fait. Donc, ça, ce n'est pas compliqué. En fait. Alors, parmi les choses qui paraissent importantes pour Francopa, c'est que dans ce centre, il devrait y avoir l'équilibre des pouvoirs entre les quatre piliers, c'est-à-dire que ECOPA est fondé sur l'idée qu'il y a quatre piliers que j'évoquais au début, hein, donc, la recherche, la réglementation, l'industrie et les associations. Et quand on regarde les statuts des COPA, chacun a la même représentation et le même rôle et le même pouvoir. Donc, ça nous paraît être un point important, et sinon ça risque d'être une courroie de transmission. Donc, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y ait un accent sur le réglementaire qui, pour l'instant, comme c'est construit essentiellement dans une logique, et les agences d'ailleurs en charge de la réglementation n'ont pas été contactées non plus. Donc, il faut qu'il y ait un accent sur le réglementaire parce que c'est là qu'il y a quand même des remplacements à faire. Hein. Donc, de façon très concrète, je l'ai dit au début, c'est peut-être minoritaire, mais ça, dans l'utilisation globale des animaux, mais ça permet d'aller quand même beaucoup plus vite dans la sécurité sanitaire. Et puis, ça a un effet d'entraînement dont il a été prouvé qu'il était efficace. Donc, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ben donc, c'est l'attitude qui pourrait être prise par rapport à l'innovation et au développement de nouvelles méthodes. Donc, ça, on ne sait pas exactement. Donc, c'est difficile de parler ni de rapprochement ni de conflit en ayant sur des indices relativement faibles. En fait. Donc, tout ce que l'on veut, en tout cas, ce que l'on veut éviter, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on perdrait, même si c'est pas, on ne peut pas se vanter que ce soit un succès fabuleux, mais où on perdrait le concept de consensus. Qui est d'un côté les gens du milieu de la recherche qui disent on fait de la science et on applique les trois R, et de l'autre des gens qui disent oh, vous utilisez des animaux, c'est pas bien. Ça, c'est ça qui nous paraît indépendamment du fait de savoir s'il y a une église ou deux églises. Vous savez qu'en France, Colombey, les deux églises est très connue. Donc, bon, c'est surtout de savoir s'il va y avoir une démarche d'innovation et une démarche de dialogue. Et puis, bien entendu, est-ce qu'il y aura qui n'allait pas bien dans Francopas, c'est qu'on n'avait pas de financement pour financer des recherches. Donc, s'il y a des financements pour financer des recherches, c'est parfait. Donc, à condition qu'elles soient dans la bonne direction. Mais donc, et donc, les discussions, on doit avoir une, en tant que Francopas, avec le ministère de la Recherche, on doit avoir une discussion là-dessus.
Et peut-être une dernière question pour conclure. Que faudrait-il, à votre avis, dans la législation pour pousser justement l'adoption et accélérer en fait l'adoption des méthodes alternatives? Elle n'est pas facile.
C'est pas facile à plusieurs niveaux. C'est que, je sais pas, je vous citais Rabé tout à l'heure, je peux parler de Montesquieu. Enfin bref, est-ce que la loi fait vraiment changer les mœurs? Je sais pas. Donc il faut un peu un mélange des deux. Je pense que c'est bon. Il devrait y avoir. Il y a quand même un maillon faible qui est celui de la validation. Et ça, je pense que ce serait important. C'est pas de la législation à proprement parler, mais d'avoir un système de financement de ces opérations qui sont méprisées parce qu'elles n'ont pas une forte valeur ajoutée intellectuelle qui consiste à répéter 36 fois la même chose pour voir si ça donne 36 fois le même résultat. Donc ça me paraît un point important quand même. Donc ça peut être, c'est semi-législatif puisque ça peut rentrer dans un budget, hein. Il peut y avoir des choses qui sont un petit peu, alors à ce moment-là, en rentrant assez finement dans le système, c'est plus du législatif, c'est plutôt du réglementaire ou même de l'opérationnel, c'est à quel moment, sur un projet de recherche, se pose-t-on la question du respect des 3 R. Supposons qu'il y ait une agence qui finance de la recherche, elle va financer un projet, et est-ce que c'est dès le début, sur le concept même du projet, que sera posée la question comme critère, est-ce que les 3 R ont bien été intégrés? C'est-à-dire, est-ce que finalement, il n'y avait pas d'autres approches que d'utiliser des animaux ou les animaux qu'on utilise d'habitude, etc. Ça peut être un critère assez important dans le choix des projets. Et ça s'oppose à des approches dans lesquelles le respect des 3 R et de la réglementation européenne, etc., se situe après. J'ai lancé ma recherche, j'ai eu mon projet, et maintenant je passe devant une commission pour démontrer que je respecte les 3 R. Donc, vous imaginez assez facilement que la rhétorique ne va pas être la même. En fait. Donc, si j'ai lancé mon projet, si j'ai été financé, eh ben, j'ai plus qu'à démontrer que ça marche vis-à-vis des 3 R. Si c'est en amont, ça change. Alors, c'est pas de la législation au sens où vous l'entendez, mais bon, c'est un peu je ne sais pas comment une législation peut inciter comme ça. Il y a une diffusion à travers les mœurs opérationnelles dans le cadre des appels d'offres, etc. Mais je pense que c'est un point qui serait important de réussir par un moyen ou par un autre de faire monter en tête de l'orientation de recherche l'utilisation de l'animal. Ça ne veut pas dire l'exclure, hein, mais ça veut dire que c'était largement mûri avant ou au moment de lancer le projet, en se demandant, bah, tiens, finalement, est-ce que sur des organoïdes, ça irait pas plus vite, ou des choses comme ça. Ça c'est un aspect. Donc, y a d'autres aspects qui sont aussi un peu au niveau du déroulement opérationnel, dans les agences, il peut y avoir une formation des experts dont on parlait tout à l'heure, aux méthodes alternatives. Donc ça, c'est quand même, que ce soit sur les, j'en discutais il n'y a pas longtemps avec des gens qui étaient un peu dans ce domaine-là, qu'est-ce que veut dire le résultat d'un essai cellulaire finalement? Qu'est-ce que ça implique plus exactement en termes d'impact sur la santé? Il faut que dans la tête des gens, il y ait cette capacité de passer de l'observation sur un système cellulaire à ce qui peut se passer au niveau de l'organisme entier. Alors, on peut répondre qu'il n'y a qu'à faire sur l'animal, mais il y a aussi la possibilité d'avoir une formation en physiologie, etc., beaucoup plus avancée pour les gens qui font ce type d'expertise. Et vraiment, la question sur laquelle je m'interroge, c'est quelle est la place des méthodes alternatives dans les systèmes réglementaires de sécurité sanitaire par rapport à la place des méthodes alternatives en recherche? J'ai une opinion personnelle qui est que vraiment, ça ne doit pas être la totalité, loin de là, mais que c'est un rôle d'aiguillon qui est relativement important. C'est plutôt l'éclaireur ou le déblayeur de chemin. Donc, je pense qu'il ne faut pas séparer les deux. Et j'ai un peu l'impression que le côté réglementaire, réglementation sur les substances, ça induit une dynamique finalement qui se retrouve très positive. Cette dynamique, vous la retrouvez aussi dans l'urgence de la recherche. Parce qu'on a vu pas mal chez les chercheurs, dans le domaine de la recherche académique pure, on voit très souvent du passage de l'utilisation d'animaux à l'utilisation de modèles cellulaires ou d'organoïdes, tout simplement pour gagner des années. Parce que il y a des choses qui sont très très longues à observer chez l'animal. Si vous avez réussi à reconstituer le système qui vous intéresse, vous allez beaucoup plus vite dans vos recherches. Donc ça, c'est une autre incitation. C'est plus difficile à en faire quelque chose de systémique. Hein. C'est chaque chercheur en face de son problème qui se dit, tiens, voilà. Mais c'est une incitation importante. Et c'est là que le dialogue et la transmission d'informations est aussi assez, assez critique. Parce qu'on avait organisé des séminaires à Francopa, justement, sur des nouveaux outils qui apparaissaient. Et il n'y a rien qui m'a fait plus plaisir qu'une des personnes qui m'a même écrit après en disant, ben, je vous remercie, j'ai découvert qu'il y avait d'autres façons que je n'avais pas en tête. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et je n'en ai pas parlé alors qu'il y a un vrai enjeu, ça c'est vraiment embêtant d'ailleurs, du côté de l'OCDE. À l'heure actuelle, il y a deux validation management groups, il y en a un sur les méthodes non animales et un sur les cotox. Et il n'y a plus rien sur l'animal. Et du coup, les nouveaux modèles animaux qui ne sont pas vraiment des animaux, ou finalement même les modèles animaux classiques sur lesquels ça vaudrait quand même la peine de réfléchir, le lieu a disparu, il faut qu'ils le reconstruisent d'une façon ou d'une autre. En fait. Ça, je pense que c'est assez important pour les gens qui travaillent, par exemple, sur le poisson zèbre, sur la drosophile, sur le nématode, ils se retrouvent à déposer leur projet devant des validation management groups qui sont de l'écotox. Or, les écotox, ils ne pensent pas pareil que les toxicologues. Ils ont, donc, au motif que c'est le modèle de l'écotox, ce n'est pas une raison pour penser écotox. Donc, on se retrouve avec une série de paradoxes. Par exemple, quelqu'un qui avait travaillé sur le poisson zèbre, on lui disait, pour étudier l'obésité, on lui disait, oui, mais enfin bon, il faut absolument que vous ayez des témoins qui nagent dans l'eau propre. Mais, je veux dire, comme le but, c'était de savoir quel était le mécanisme d'atteinte, on s'en fichait, enfin, en termes de toxicologie. Donc, je pense que ça, c'est un point qui n'est pas inintéressant.
Je vous remercie, Philippe. On a appris beaucoup, je pense, pendant ces 45 minutes. Je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce podcast et je vous souhaite une bonne continuation pour promouvoir les méthodes alternatives en France.
Merci.
Thank you for listening to this episode. If you wish to learn more about the 3R centers and the alternatives to animal testing, check out our website academy.altatox.be. You enjoyed this podcast? Please leave a review on Facebook and other social media.